Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Un podcast pour les parents, les professeurs des écoles, les éducateurs Montessori et toutes les personnes intéressées par la pédagogie Montessori et la neuroéducation. Je suis Céline Guerrero, maman, prof des écoles en dispo, réalisatrice de ce podcast et prête à tout pour que chaque enfant et chaque adulte développe son plein potentiel. En plus de mes ateliers Montessori le mercredi, je forme des professeurs des écoles de maternelle à la pédagogie Montessori et les élèves de CE2, CM1 et CM2 pour apprendre à apprendre. Vous retrouverez toutes les infos sur mon blog montessori-apprendreautrement.com. J'ai aussi la chance de travailler avec ERAM Montessori et donc si votre projet est de devenir éducateur Montessori, rendez-vous sur formation-eram-montessori.com. Si ce podcast vous plaît, je compte sur vous pour partager vos épisodes préférés avec vos amis et vos collègues. Et depuis peu, vous pouvez soutenir mon travail en vous abonnant pour 5€ par mois. Le lien est dans les notes de chaque épisode. La semaine dernière, le titre de l'épisode était « Ce que je veux pour mes élèves ». Et j'étais partie sur mes trois priorités. Je veux aider mes élèves à développer leur autonomie, je veux que mes élèves se sentent bien et je veux que mes élèves progressent. Je vous avais invité à écrire vos priorités dans les notes de l'épisode ou dans les commentaires sur Facebook. Bon, j'en ai lu quelques-unes, mais pas beaucoup. Donc, n'hésitez pas encore à écrire, vous, quelles étaient vos priorités. Mais aujourd'hui, je vais partir du coup sur le deuxième point qui était « Je veux que mes élèves se sentent bien ». Donc, le titre d'aujourd'hui, c'est « S'épanouir à l'école ». Je pense qu'un des pièges en tant qu'enseignant, c'est de tomber dans le piège de les savoir-faire. Et de trop se focaliser uniquement sur les savoir-faire. Alors que quand les enfants sont heureux, quand ils ont confiance en eux et en l'adulte, ils vont pouvoir vivre l'apprentissage comme une grande aventure et y a plein de choses qui peuvent se débloquer. Donc pour moi, pour que les enfants puissent s'épanouir, il y a deux choses fondamentales. Il y a l'environnement préparé, l'aménagement de notre classe, le déroulement de la journée, tout ce qui concerne l'environnement préparé, et la relation enseignant-enfant. Donc je dis enseignant-enfant et pas enseignant-élève, parce que je trouve important de garder en tête que même si on s'adresse à un groupe d'élèves, chaque enfant est une personne à part entière et c'est un enfant, c'est pas qu'un groupe. Voilà, c'est pour ça que je préfère dire relation enseignant-enfant que la relation enseignant-élève qu'on a l'habitude d'entendre. Mais voilà, en tout cas dans cet épisode, je ne vais pas me focaliser sur l'environnement préparé, mais vraiment sur cette relation enseignant-enfant. Parce que la qualité de cette relation, elle est vraiment déterminante. Donc je vais commencer par le premier point, qui est l'adulte a une foi sereine et solide en chaque enfant. Je le répète une deuxième fois parce qu'elle est vraiment importante, cette phrase. L'adulte a une foi sereine et solide en chaque enfant. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'effet Pygmalion. J'avais entendu parler de cette étude il y a un petit moment déjà, mais j'ai quelques notes sous les yeux qui m'ont permis de m'en rappeler. En fait, c'était une expérience qui avait été réalisée dans une classe et des chercheurs avaient fait passer des tests de QI à tous les enfants en début d'année, mais ils ont faussé les résultats. Et ils avaient désigné de façon aléatoire 20% des enfants et ils ont fait croire aux enseignants que ces enfants avaient des capacités largement supérieures à la norme, qu'ils avaient un gros QI et que leur capacité dépassait la norme. Et en fait, le comportement des enseignants, il a changé avec ces quelques enfants et ça a impacté considérablement leur progression. Ils ont beaucoup plus progressé que les autres élèves de la classe. Donc je trouve cette étude assez parlante et ça peut nous faire prendre conscience que notre regard et nos croyances, elles sont primordiales. Parce que si on se dit dans notre tête « Oh, c'est pas possible, il comprendra jamais », cet enfant progressera beaucoup moins que si on se dit « Ah, c'est difficile pour lui de comprendre, mais je sais qu'il comprendra bientôt ». Et là, je parle juste des enseignants qui se disent ce langage dans leur tête. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir la maladresse de dire à voix haute « mais c'est pas possible, tu n'y arriveras jamais ». Je sais que malheureusement, ce genre de phrase peut nous échapper. Et c'est terrible parce qu'en fait, notre regard et nos croyances impactent énormément la confiance en soi de l'enfant, ses apprentissages, enfin tout quoi. Donc, et même si on ne le dit pas à l'enfant, si on le pense, ce qui est à mon avis ce qui arrive dans la plupart des cas, même si l'enfant n'est pas dans notre tête, en fait, toute cette communication non-verbale, elle parle pour nous. Je vous dis pas si vous levez les yeux au ciel, si vous soupirez, non, des petites choses plus discrètes que ça encore, en fait, ça a un impact quand même. Et l'estime de soi des enfants ne sera pas la même si on croit en eux ou pas. Donc, vous m'entendez sur le podcast, vous m'entendez très souvent parler de plein potentiel ou de plein épanouissement affectif et cognitif. Mais voilà, c'est vraiment fondamental de reconnaître le plein potentiel de chaque élève. Ah, c'est marrant parce qu'en disant ça, je viens juste de me rappeler d'un rêve que j'ai fait cette nuit. C'est marrant. J'étais enseignante en cycle 3, je dirais. Et pour le spectacle de fin d'année, en fait, les enfants avaient improvisé une danse, enfin des chorégraphies. Et je me rappelle, en fait, que dans mon rêve, j'avais été épatée par un petit garçon qui était impressionnant, qui dansait très très vite et qui avait une chorégraphie très élaborée. Et dans mon rêve, je me suis dit, oh là là, j'ai passé toute l'année avec lui et je ne savais même pas qu'il était très doué pour danser. C'est marrant d'avoir rêvé de ça. Et tiens, je vais rebondir du coup sur le fait que dans mon rêve, en fait, je prenais conscience que je ne lui avais pas assez parlé dans l'année. Et bien, en fait, ça peut nous arriver, malheureusement, pris dans toutes les obligations, tout ce qui se passe dans une journée de classe, d'oublier de parler aux enfants. Et même moi, pour les ateliers, ils sont beaucoup moins nombreux, ça m'est déjà arrivé, enfin, j'ai déjà pris conscience des fois, oh là là, mais j'ai vraiment pas pris beaucoup de temps pour échanger avec cet enfant. Et hier, j'ai accueilli pour la première fois pendant mes ateliers une petite Cléo qui rentre en CE1. Et en fait, j'avais oublié, j'avais échangé avec la maman par téléphone un mois et demi avant. Et j'avais oublié, en fait, quand elle m'avait dit que son papa était allemand et que du coup, la petite parlait allemand couramment. Et donc, hier, je n'en ai pas du tout parlé parce que je ne me rappelais plus de cette info. Mais du coup, ce matin, j'ai rattrapé le coup et puis voilà, j'ai échangé avec elle. On a eu une petite discussion là-dessus. Et elle souriait, elle était toute contente. Elle a vu que je m'intéressais à elle, à ce qu'elle vivait. Donc, ça peut paraître anodin ou rien du tout. Mais en fait, ça ne l'est pas. C'est vraiment super important de pouvoir parler avec nos élèves. Bon, ça m'arrive quand même de prononcer le mot élève parce que si je dis enfant à chaque fois, vous allez peut-être penser à vos propres enfants. Donc voilà, je vais quand même utiliser le mot élève dans cet épisode, mais n'oubliez pas que ce sont quand même des enfants et pouvoir leur parler, s'intéresser à eux, échanger avec eux, ça peut des fois nous apporter plein d'indices, connaître leurs passions et des fois envisager les choses différemment au niveau scolaire. Un enfant qui bute sur une compétence, on va pouvoir s'y prendre autrement, si on connaît ses forces, ses passions, on a tout à y gagner, à échanger plus avec eux. Voilà, cette petite, en plus, qui va rentrer en CE1, elle a quelques difficultés un petit peu avec l'écriture, les sons complexes, mais en fait, elle parle couramment allemand. Donc oui, c'est une info qui est quand même super importante. Oui, le son A, le son F, PH, ouais, tout ça, ça l'embête encore un peu. Oui, mais en fait, c'est normal, quoi. Elle, à côté de ça, elle parle couramment allemand. Donc, je pense que c'est intéressant d'arrêter de ne pas s'arrêter aux difficultés de nos élèves, que les difficultés, ça soit par rapport au comportement ou par rapport aux des difficultés scolaires, parce que chaque enfant a du potentiel. Et croire en eux, ça peut que être positif. Caroline Sost, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'elle, elle a écrit un livre, d'ailleurs le titre c'est « S'épanouir à l'école », et elle parle d'un rituel assez puissant, c'est le cahier de réussite. Donc c'est un petit cahier blanc, sans carreaux, juste des pages blanches, et les enfants, en fait, toutes les semaines, vont célébrer leur réussite. Donc ils vont dessiner, quand ils sont petits ils dessinent, quand ils sont plus grands ils écrivent. Mais l'avantage en fait c'est que ça leur donne l'habitude de chercher, de prendre du recul sur ce qu'ils ont vécu dans la semaine et de se dire « Ah oui, ça avant j'y arrivais pas et maintenant j'y arrive ». Et c'est pas forcément que pour des choses scolaires, ça peut être faire du patin à glace, enlever les petites roues de son vélo, ça peut être faire une recette, c'est vraiment, c'est pas que ce qui se passe à l'école, c'est vraiment ce qui s'est passé dans leur semaine, à la maison et à l'école, indifféremment. Et ce petit rituel, ça renforce vraiment leur confiance en eux. Et d'ailleurs, si un enfant, elle partage cette anecdote, si un enfant ne trouve pas de réussite, et ben les autres vont l'aider et vont même trouver à leur place. Je trouve ça vraiment, vraiment super. Donc c'est un petit rituel tout simple à mettre en place qui peut faire une grande différence. Et en parlant de potentiel, c'est rigolo parce que ouais, j'étais en train d'hésiter ouais, si je vous le partage. Vous savez que je parle tout le temps du plein potentiel, le plein potentiel des enfants. Et en fait, j'ai lu la phrase d'un coach qui aide les entrepreneurs à vivre de leur passion. Et parce que cette phrase, c'était j'ai le potentiel de construire l'activité de mes rêves. Et en fait, cette phrase, ça m'a un peu percutée. Je me suis arrêtée plusieurs secondes parce qu'en fait, je le répète tout le temps pour les enseignants. Tout le temps, voilà, développer le plein potentiel de vos élèves sans oublier le vôtre. Et en fait, je réalise que j'avais encore des doutes sur moi, sur ma capacité à développer mon activité de formatrice et à en vivre. Donc voilà, je fais une petite digression, mais voilà, ce mot plein potentiel, il est assez puissant. Et du coup, maintenant, j'ai accroché cette phrase, voilà, j'ai écrit cette phrase sur un post-it et je l'ai scotché là sur mon ordi pour ne pas l'oublier. Parce que voilà, ça fait depuis 2 ans et demi que j'accompagne des enseignants pour voilà, pour qu'ils puissent vivre, être plus heureux dans leur classe, se sentir mieux eux et mieux accompagner, enfin pas mieux accompagner les enfants, mais en tout cas tendre vers le plein épanouissement affectif et cognitif. Et en fait voilà, pour réussir, enfin depuis 2 ans et demi, j'avais choisi que mes tarifs soient très très bas. C'était 190 même au début et 290 pour ma formation. Et en fait, j'ai pris conscience en écoutant ce coach, c'est que en voulant, si j'avais fait ce choix, c'était dans le but d'aider le plus d'enseignants possible. Mais en fait, je vous partage ça hein, du coup, je reviendrai l'épanouissement des enfants juste après. C'est le souci en faisant ça, c'est qu'en fait, moi, je peux pas en vivre et j'ai pris conscience que, par rapport à ce qu'il disait, que pour pouvoir accompagner les autres, bah, il faut être bien soi. Il faut prendre soin de soi. Donc voilà, j'ai fait c'est pour ça que du coup, je ne peux pas continuer de proposer mes formations à 290 €. Parce que sinon, voilà, je ne serai jamais en capacité d'en vivre. J'essaye de m'améliorer, mais je ne serai jamais en capacité de le faire, de développer mon plein potentiel, moi aussi, dans mon activité. Donc voilà, désolée pour cette petite digression, mais c'en est pas. Enfin, si je dis ça aussi, c'est pour vous. Pour pouvoir accompagner les autres, il faut être bien soi. Donc ça, je vais en revenir. J'y reviendrai juste après à la fin de cet épisode. Maintenant là, je voulais vous parler de la sécurité affective. Pour moi, le rôle de l'adulte en classe, ça va être de poser un cadre et d'assurer une sécurité affective. Je le répète une deuxième fois, comme tout à l'heure. L'adulte pose un cadre et assure une sécurité affective. Et ce cadre, il va être ferme et bienveillant. On ne va pas laisser les enfants construire leur intelligence dans le désordre, non. L'adulte, il ne va pas être effacé. Hein. Autonomie et confiance, ce ne sont pas synonymes avec laxisme et indifférence, non. Le rôle de l'adulte, c'est vraiment de faire en sorte que chaque enfant se sente en sécurité. Et si un enfant a un comportement destructeur, bah le rôle de l'adulte, évidemment, c'est de l'arrêter. Cette sécurité affective, elle est vraiment indispensable, parce que sans ça, sans cette sécurité affective, en fait, un enfant ne peut pas apprendre. Un enfant qui a peur que, je sais pas moi, qu'un enfant l'attaque physiquement, en principe, ou même verbalement, ou qui a peur que l'enseignant l'attaque verbalement, il ne peut pas apprendre, il n'est pas en sécurité affective, c'est même pas la peine, c'est même pas la peine d'essayer en fait. Donc pour qu'un enfant apprenne et se sente bien et heureux à l'école, ben, en fait il faut de l'empathie et de l'amour, voilà, pour que l'enfant puisse utiliser ses forces intérieures. Vous savez quand même que pour les petits, même jusqu'à 24 ans, mais en tout cas les enfants de maternelle et de primaire, leur cortex préfrontal, en fait, est encore immature. Hein. Donc, c'est Catherine Guéguin en parle super bien dans son livre « Heureux d'apprendre à l'école ». Elle dit que le cortex orbitofrontal et ses circuits neuronaux sont encore immatures. et que c'est l'attitude empathique et encourageante de l'adulte qui permet à l'enfant de contrôler ses émotions. Et l'adulte favorise la maturation du cerveau, voilà. Donc notre responsabilité est grande. Alors du coup, pourquoi je disais prendre soin de soi, enfin pour vous, prendre soin de vous? Parce qu'en fait, pour réussir à accompagner les enfants, pour réussir à avoir des relations empathiques, soutenantes et aimantes, qui sont la condition nécessaire pour le développement optimal du cerveau de l'enfant, bah, il faut que nous, on se sente bien. Et des fois, réussir, il y a une différence entre être au courant, avoir conscience, savoir et faire, en fait, passer à l'action. Et des fois, pour réussir à faire ça dans la vie de tous les jours, quand on a passé, je sais pas, une demi-heure dans les bouchons ou quand dès le petit déjeuner, c'était l'apocalypse à la maison, bah, c'est pas évident. Donc du coup, il faut vraiment avoir conscience qu'on a besoin de prendre soin de nous. Et dans la formation Impact, il y a toute une partie sur les émotions, vu qu'elles influencent notre vie entière, on ne peut pas les laisser à la porte de la classe ou de l'école. Donc il y a toute une partie sur les émotions, sur l'attitude empathique de l'adulte, l'auto-empathie, la qualité de la relation élève-enfant. Et donc voilà, dans cette partie-là de la formation, je ne vous apporte pas seulement des connaissances, je vous accompagne aussi dans le passage à l'action, hein, dans la transformation intérieure, qui peut être un peu inconfortable au début, parce qu'il y a des fois on peut se dire, une fois qu'on a des connaissances en fait, on peut se dire, oh, j'aurais aimé réagir calmement, mais je me suis laissée emporter. Donc voilà, il y a quelques marches qui peuvent être un peu inconfortables. Oui, cette histoire de marche, je me rappelle, j'avais entendu ça de ma formatrice pendant une formation Faber et Maslitch. Ça y est, j'ai retrouvé comment ça s'appelle. Elle parlait de incompétent inconscient. Donc en gros, quand on est incompétent, quand on n'a pas toutes ses connaissances, mais qu'on n'en a pas conscience, on se sent plutôt bien. Après, il y en avait plusieurs, mais il y avait incompétent conscient. Donc là, on a conscience de notre incompétence, on sait que que les relations qu'on entretient avec nos élèves, sont vraiment la condition nécessaire pour le développement optimal de leur cerveau. On en a conscience, mais on n'arrive pas encore à agir comme on le souhaiterait. Et après, ensuite, il y avait compétent conscient. Donc compétent conscient, ça veut dire que ça y est, on arrive à mettre ça en place, mais ça nous demande encore beaucoup d'efforts. Il y a des jours où on n'y arrive pas. Et la dernière marche, je crois que c'était compétent inconscient. Donc, en fait, c'est notre façon de parler, notre mode de vie, et on y arrive tout le temps, ou quasi. Donc voilà, je vous parle de ces marches, parce que des fois, il peut y avoir quelques marches qui peuvent être inconfortables. Mais le fait de prendre soin de soi, pour moi, c'est indispensable, parce qu'en fait, on ne peut pas apporter des réponses adaptées aux enfants si notre réservoir à nous est vide. Voilà, il faut que notre réservoir à nous soit rempli, et pour pouvoir être empathique, à l'écoute et tout ça. Donc si on est fatigué, triste, ou voilà, si notre réservoir est complètement vide, on ne pourra pas répondre avec bienveillance à chaque enfant. Donc à nous maintenant de trouver ce qui nous fait du bien. Voilà, ça peut être, je sais pas moi, faire du sport, méditer, avoir une vie sociale épanouie, enfin voilà, à vous de voir ce qui vous fait du bien et qui vous permet justement d'avoir cette disponibilité. À la fin du dossier là, sur les émotions, j'invite les apprenants de ma formation à noter des solutions pour recevoir de l'empathie afin d'être eux-mêmes empathiques. Parce que voilà, l'enjeu, c'est pas, comme je vous disais, c'est pas seulement d'en avoir pris conscience, hein, ça c'est la première étape, mais voilà, l'enjeu c'est de réussir à passer à l'action. Donc voilà, on voit ça ensemble. Donc la question que vous pouvez dès à présent vous poser, là, vu que cet épisode touche à sa fin, c'est comment je fais, même si mon quotidien est surchargé, pour prendre soin de moi et pour avoir la disponibilité et la possibilité ensuite de prendre soin des autres. Donc je vous invite vraiment à passer à l'action, prendre le temps de réfléchir. Vous pouvez noter dans les commentaires sur une feuille de papier, mais c'est, du coup voilà, les autres ne pourront pas lire ce que vous avez noté. Mais c'est l'avantage des commentaires, comme ça on peut partager et échanger. Mais je vais vous encourager à passer à l'étape suivante. Donc la première étape, ça va être prendre conscience comment je peux faire pour avoir de l'empathie, comment je peux faire pour prendre soin de moi. Et la deuxième étape, ça va être de passer à l'action, encore plus, dans le sens où planifier dans votre agenda. Moi par exemple, j'avais noté, comme exemple là, dans la formation, j'avais noté marcher en forêt avec mon ami tous les mardis. Et du coup, bah là, en préparant l'épisode, là, j'avais noté cet exemple, et ben, je suis passée à l'action, en fait. J'ai envoyé un message à mon amie pour qu'on se réorganise là, avec la nouvelle organisation de l'année, voilà, pour savoir si elle peut, si on peut marcher mardi prochain ou jeudi prochain. Donc voilà, je vous invite à avoir déjà cette première réflexion, comment je peux prendre soin de moi et concrètement, qu'est-ce que je fais? Voilà, qu'est-ce que je mets en place pour être sûre que prendre soin de moi, ça soit la priorité. Et que ça soit pas juste, oh bah je prendrai soin de moi quand j'aurai le temps. Parce qu'en fait, il y aura toujours des millions de choses à faire dans une semaine. Et vous ne pourrez pas être disponible voilà, pour les enfants si, bah si vous, voilà, votre réservoir est vide, si vous n'avez pas reçu d'empathie. Donc voilà, je vous invite à faire ça, à partager si vous voulez dans les commentaires. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un troisième épisode et voilà, vous me direz si ce format vous plaît, mais j'ai plein 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 de sujets en tête, donc voilà, je pourrais continuer encore comme ça quelques semaines, mais n'hésitez pas à me dire voilà, si c'est un format qui vous plaît. En gros là en fait je suis en train de reprendre plein de points de ma formation, je vous les apporte un peu peut-être de manière décousue, mais voilà, ça vous permet quand même d'avoir dans quelques semaines vous aurez quand même une vision plus globale de tous les sujets que j'aborde. Et j'en profite pour vous dire que le prochain groupe démarre le 15 septembre. Voilà, avec ou sans financement. Donc si vous avez des questions sur la formation, n'hésitez pas. Et je vous dis à la semaine prochaine.